Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, Terre sans maître n'est plus bonne à prendre. Hey, ChatGPT, Michel C. Auger est vivant. Et alléger son empreinte carbone. Bonne écoute.
Terre sans maître n'est plus bonne à prendre. Un texte d'Isabelle Picard paru le 1er avril 2023 dans la presse. La doctrine de la découverte, ou Terra Nullius, a été mise en place au 15e siècle par l'Église catholique. Comme je veux garder ce texte digeste alors que vous êtes en train de siroter votre café du samedi matin, je simplifierai en disant que l'Église, par le biais de cette doctrine, venait justifier moralement la prise des territoires, des ressources et des humains, oui, des humains, qui se trouvaient sur le Nouveau Monde. Vous n'avez pas recraché votre café? Parfait. Continuons. Selon l'Église catholique et les pays colonisateurs, les Autochtones n'avaient pas le niveau de civilisation suffisant pour être les propriétaires de leur territoire, des ressources qui s'y trouvent et pour décider pour eux-mêmes. De surcroît, ils n'étaient pas chrétiens. La dite Église, en mettant en place cette doctrine, venait confirmer qu'il était justifié et justifiable de prendre les terres des autres sans demander la permission. Pratique, non? Du même souffle, on venait affirmer que les Européens avaient bel et bien découvert un nouveau monde. Plus facile pour arriver à un même but, étendre son empire et exploiter les ressources, y compris les habitants originaux de ces terres, de l'Afrique à l'Amérique. Pas si vieux comme doctrine. Oui, mais plus aucun gouvernement, aucune personne n'utilisait cette doctrine dans les faits de toute façon. Cette phrase, je l'ai entendue sous toutes ses formes cet été lors de la visite du pape François Ier au Canada. Or, c'est totalement faux. En 2005 encore, la doctrine de la découverte était utilisée en Cour suprême des États-Unis par nul autre que la célèbre juge Ruth Bader Ginsburg dans la cause Cheryl C. Oneida Nation. Dans sa décision, la juge Ginsburg est venue nier l'immunité tribale de la nation Oneida sur des terres qu'elle avait autrefois habitées, qu'elle s'était fait prendre sans consentement et qu'elle avait dû racheter en grands frais, pièce par pièce, sur le marché immobilier. Les Oneida y réclamaient des droits et la Cour suprême est venue les refuser en invoquant que le concept de souveraineté sur ces terres était inapplicable puisque les Oneida ne les avaient pas habités en continu. Normal, on les leur avait volés. Pourquoi je vous parle de ce cas qui implique les États-Unis? C'est parce que ce discours, cette défense, n'est pas propre à nos voisins du Sud. C'est un peu la même chose ici au Canada. En effet, quand les premiers peuples font une demande de revendication territoriale globale auprès du gouvernement fédéral, ils doivent prouver une occupation continue du territoire. Et c'est parfois difficile. Vous savez pourquoi maintenant. Mais remontons un peu le temps. Disons, au hasard, 1492. Christophe Colomb, alors à l'emploi des Espagnols, arrive dans les Caraïbes avec son trio de beaux bateaux à voile. Il rencontre des gens qui y vivent. Il se croit en Inde. Alors il les nommera les Indiens. Un beau bloc monolithique qui ne parle pas la bonne langue, n'a pas la bonne couleur de peau, qui n'a pas de roi et qui ne sait ni lire ni écrire. En plus, les femmes ont leur mot à dire dans les décisions qui les concernent. Les enfants vivent librement sans discipline stricte et les habitants ne savent pas exploiter les ressources puisqu'ils les respectent et en prennent soin et n'ont aux yeux des Espagnols aucun dieu. Ou pas le bon, en tout cas. Quelle façon barbare de vivre! Sic, Colomb veut de l'or et il fait tout pour le trouver, jusqu'à tuer et torturer des milliers de personnes. Mais prendre ainsi des territoires et leurs ressources, réduire des milliers de personnes à l'esclavage, ce n'est pas tellement catholique. Il faut trouver quelque chose pour être absous de tous ces péchés. Le document Inter Cetera, la dernière d'une liste de bulles pontificales catholiques, signée cette fois par le pape Alexandre VI en 1493, verra le jour en réponse à cette problématique. Mais il y a derrière ça, si je comprends bien, de la grosse politique. Cet acte empêchera le roi du Portugal de s'emparer des nouveaux territoires puisque le pape du moment, lui aussi espagnol, interviendra en faveur de la couronne de Castille, catholique, pour lui attribuer toutes les terres à l'ouest des Açores en vue d'évangéliser les 10 Indiens. La mission est bien plus noble ainsi. Assez sur ce retour historique. Quiconque connaît la loi sur les Indiens sait que cette loi prend ses échos au cœur de cette doctrine. Sinon, pourquoi serions-nous, comme membres des Premières Nations, encore des pupilles, des mineurs aux yeux de l'État, même aujourd'hui? Pourquoi les pensionnats pour autochtones auraient été rendus obligatoires par cette loi si ce n'était pour nous évangéliser et nous amener au rang de civilisés? Cette doctrine de la découverte se cache encore parmi nous. Combien de fois a-t-on essayé de nier la présence autochtone lors de la construction de pipelines ou de barrages, pour ne nommer que ça? Alors non, cette doctrine archaïque n'est pas éteinte ou dormante. Elle s'est insinuée insidieusement dans les pensées et les actions d'hier à aujourd'hui. Il était grand temps que l'Église répudie cette doctrine qui n'aurait jamais dû être, et grand temps que tous nous en prenions acte. C'était « Terre sans maître n'est plus bonne à prendre », un texte d'Isabelle Picard paru le 1er avril 2023 dans la presse. Hey, ChatGPT, Michel Séauger est vivant. Un texte de Michel Séauger et Alexandre Sirois, paru le 1er avril 2023 dans la presse. Michel Séauger a questionné cette semaine ChatGPT à son sujet. On lui a répondu qu'il avait été assassiné il y a plus de 20 ans. Le robot conversationnel a aussi inventé de toutes pièces des détails sur la carrière des membres de l'équipe éditoriale de la presse. Dans la foulée de ces dérapages, notre chroniqueur a échangé avec l'éditorialiste Alexandre Sirois au sujet des failles de l'intelligence artificielle. Michel Séauger. J'étais curieux. Je voulais voir ce que ChatGPT pouvait bien dire de moi. Quelle ne fut pas ma surprise? Michel Séauger était un journaliste québécois bien connu pour son travail en tant que chroniqueur politique et journaliste d'enquête. Il est né le 21 juillet 1950 à Montréal. Au fil des ans, il a notamment couvert l'affaire de la Commission Charbonneau, une enquête sur la corruption dans l'industrie de la construction au Québec. Malheureusement, Michel Séauger a été assassiné le 8 septembre 2000 par un homme armé alors qu'il quittait les studios de CKAC. Je suis habitué à la confusion. Il y a deux journalistes nommés Michel Auger. Mon aîné fut l'un des plus grands reporters à couvrir le crime organisé au Canada. Comme il était plus âgé que moi, quand j'ai commencé en journalisme, j'ai tout de suite ajouté mon initiale à ma signature, justement pour éviter toute confusion. Mais surtout, nous sommes devenus amis. Alors, je ne suis pas surpris que ChatGPT nous ait confondus. Mais l'amalgame de nos biographies respectives contient tellement d'erreurs qu'on en rirait si ce n'était pas un peu triste de voir ce que l'intelligence artificielle fait de nous. D'abord, je ne suis pas né en 1950, mais Michel non plus, en 1947. Je suis né à Montréal, mais lui, c'était à Shawinigan. Ça commence mal, mettons. Alexandre Sirois, toi, assassiné? On nage en plein délire. À ce que je sache, tu es la première personne à avoir vécu une telle expérience. ChatGPT n'offre pas d'avis de décès à des personnes vivantes sur une base régulière. Heureusement. N'empêche que ces hallucinations sont fréquentes. On l'a questionné sur les membres de notre équipe éditoriale. S'il y a parfois du vrai dans ses réponses, beaucoup de choses ont été inventées de toutes pièces. On a ainsi appris que notre éditorialiste en chef, Stéphanie Gramont, a travaillé à la presse jusqu'à sa retraite en 2020. Pour ma part, selon ChatGPT, je travaille actuellement au Devoir. Philippe Mercure a été correspondant parlementaire à Ottawa pour RDI. Nathalie Collard est l'auteur de plusieurs livres sur les arts et la culture, dont « Danser avec la vie et le corps en spectacle ». Vincent Brousseau-Pouliot a travaillé pour Radio-Canada et a également été correspondant à l'étranger pour différents médias canadiens. Quant à Serge Chapleau, il aurait créé le personnage fictif « Le petit gars de Shawinigan » qu'il utilise pour commenter l'actualité politique et sociale. Tout ça est faux. Michel C.O.G. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le manque d'intelligence de l'intelligence artificielle. On devrait être rendu au point où l'intelligence artificielle serait capable de vérifier ces informations ou, au moins, de mettre des faits en rapport les uns avec les autres. Mais, selon ChatGPT, j'aurais couvert, ou est-ce Michel, la commission Charbonneau. Je ne l'ai pas couverté, à ma connaissance, Michel non plus, puisqu'il était déjà à la retraite. Mais plus troublant encore, puisque je suis mort en l'an 2000, comment aurais-je pu couvrir une commission qui a commencé ses travaux en 2011? C'est pas juste une erreur, c'est montrer que l'IA a encore de grandes lacunes factuelles. On ne parle pas ici d'analyse. Alexandre Sirois. Je ne sais pas si ça peut te rassurer, mais je viens tout juste de questionner ChatGPT à ton sujet. Je parle ici de la nouvelle version du robot conversationnel développé par l'entreprise californienne OpenAI. Les experts disent tous que la vitesse à laquelle ces robots s'améliorent est exponentielle. Résultat, il sait que tu n'es pas mort. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que ChatGPT 4 raconte encore plein d'âneries. Tu serais selon lui un journaliste spécialisé dans la couverture des affaires judiciaires et de sécurité nationale. Et tu aurais déjà travaillé pour le réseau TVA, où tu aurais animé l'émission d'affaires publiques « Les coulisses du pouvoir ». Bref, il y a du progrès, mais ce robot a encore des croûtes à manger. Michel C.O.G. Merci de me ressusciter, mais je veux revenir à la mort de Michel. Censé, avait-il coutume de dire. Parce que là, l'intelligence artificielle montre de belles dispositions pour la fiction. Non seulement il n'a pas été assassiné, mais l'attentat contre sa vie, qui a bel et bien eu lieu, n'était pas alors qu'il quittait les studios de CKAC, mais dans le stationnement du journal. En passant, nous avons tous les deux travaillé plusieurs années au Journal de Montréal, ce qui n'est nulle part mentionné. Mais ChatGPT en rajoute une couche. L'enquête sur sa mort a duré plusieurs années et plusieurs personnes ont été inculpées dans le cadre de cette affaire. Mais non, personne n'a été inculpé, les auteurs des attentats n'ont jamais été trouvés. En fait, on devrait dire qu'ils n'ont jamais été formellement accusés. S'il y a quelque chose qui m'embête vraiment dans tout cela, ce n'est pas que quelques faits puissent avoir été erronés. Comme journaliste, on a tous fait des erreurs, alors on ne peut pas jeter la pierre trop vite. Mais lorsque l'IA n'a pas les faits, elle les invente. Ça me dérange vraiment. Alexandre Sirois. Le Wall Street Journal a récemment révélé que deux chercheurs de Google ont tenté de convaincre les dirigeants de cette compagnie, en 2021, de rendre public un robot conversationnel de type ChatGPT. On leur a dit non, notamment parce que l'on considérait, chez Google, que le programme ne répondait pas aux normes de sécurité et d'équité des systèmes d'intelligence artificielle. Mais en novembre dernier, la compagnie OpenAI a ouvert la boîte de Pandore en rendant public ChatGPT. Depuis, on assiste à une course effrénée entre les géants du numérique. On croirait qu'ils jouent maintenant à qui pisse le plus loin. Et on commence à en faire les frais. C'est entre autres pour ça qu'une série d'experts, dont le Montréalais Joshua Bengio, viennent de demander aux entreprises qui conçoivent ces systèmes de mettre leurs travaux sur pause pendant au moins 6 mois. Et vendredi, l'Italie a bloqué l'utilisation de ChatGPT pour des craintes liées à l'utilisation des données des utilisateurs. Ces outils d'intelligence artificielle ont de nombreuses qualités, un potentiel formidable aussi, mais ils ne sont pas encore au point. Ta fausse mort en est une démonstration sans appel. C'était « Hey, ChatGPT, Michel Séauger est vivant ». Un texte de Michel Séauger et Alexandre Sirois, paru le 1er avril 2023 dans la presse. Alléger son empreinte carbone, aux frontières du réel. Un texte de Valérie Simard, paru le 27 mars 2023 dans la presse. Pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés centigrades, chaque habitant de la Terre ne devrait pas émettre plus de 2 tonnes équivalent CO2 par année. Comment y arriver? Un atelier immersif offert depuis peu au Québec permet de déterminer les actions à accomplir et de réaliser que pour les Canadiens, le défi est titanesque. Dans la salle, l'étonnement est grand. Avant de se présenter à la coopérative de solidarité TLM, un tiers lieu à Montréal, dans le plateau Mont-Royal, le mardi 21 mars 2023, la dizaine de participantes, des femmes en grande majorité, ont calculé leur empreinte carbone à l'aide d'un modèle élaboré par l'entreprise d'économie sociale française 2 tonnes derrière cet atelier maintenant offert dans une trentaine de pays. La moyenne annuelle d'émissions de gaz à effet de serre des participantes présentes se situe autour de 14 tonnes équivalent CO2, ce qui est légèrement en deçà de la moyenne canadienne, 15 à 20 tonnes selon les méthodes de calcul. L'empreinte la plus faible avoisine les 10 tonnes, la plus élevée l'est 2 fois plus. Flexitarienne, sans voiture, adepte du bio, nombre d'entre elles estiment en faire déjà beaucoup pour réduire leur empreinte et trouvent le résultat un brin décourageant. En fait, L'objectif de l'atelier est aussi simple que le défi est colossal. Au moyen d'un jeu interactif qui se décline en 8 tours, répartis dans une séquence de temps fictive allant de 2023 à 2050, les participants doivent abaisser leur empreinte carbone à 2 tonnes en choisissant parmi une sélection de cartes d'action. On alterne entre l'individuel et le collectif et entre les thématiques – alimentation, énergie, transport, consommation, etc. Il y a aussi des cartes basées sur l'influence et la mobilisation, dont le rôle ne doit pas être sous-estimé. Le modèle, construit à partir de données du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, et de la Banque mondiale, tient compte de l'empreinte carbone des services collectifs tels que les hôpitaux, les écoles et les routes. Au Canada, celle-ci est estimée à 5 tonnes équivalent CO2 par habitant par année. On démarre donc l'exercice avec un grand déficit. J'ai beau faire des gestes individuels, ce 5 tonnes est incompréhensible. Ça m'a surprise, dit Geneviève Fournier-Goulette, professeur de littérature au Cégep. La force d'un groupe. Pour agir sur cette donnée, il faudra adopter des mesures collectives. Réunis autour d'une table, les participants se prêtent à des simulations en étant notamment parachutés dans une assemblée de la COP27 où chaque pays doit défendre ses intérêts. Le jeu se joue à l'aveugle. L'animateur de l'atelier, Théo Chevalier, ne dévoile qu'à la fin de chaque tour les gestes qui ont le plus d'impact et les effets que nos décisions ont sur nos courbes personnelles. Pour l'instant, ces ordres de grandeur sont élaborés à partir de données françaises. La situation pourrait être différente pour le Québec, notamment en raison du mix énergétique. Le modèle n'est pas parfait, convient l'animateur, mais il fait l'objet d'une constante amélioration. Parmi les actions individuelles qui ont le plus d'impact, notons l'adoption d'un régime flexitarien, voire l'exclusion de la viande rouge, l'utilisation du transport en commun, les gains énergétiques résidentiels et la diminution des voyages en avion. Moins prendre l'avion est une décision crève-cœur pour bon nombre de participantes qui ont de la famille outre-mer. Or, un vol aller-retour Montréal-Paris en classe économique entraîne l'émission de 1,9 tonnes équivalent CO2. Lors du premier tour, peu sont prêts à réduire leurs déplacements. Mais, au fur et à mesure que la fenêtre de temps pour agir se rétrécit, la pression se fait plus forte. En 2050, beaucoup sélectionnent à contre-cœur la carte « Arrêtez de voler ». Au chapitre collectif, le groupe adopte des mesures pour préserver des aires naturelles, mettre en place des pratiques agricoles plus durables, taxer les voitures thermiques, décarboner la production d'énergie et, en 2050, imposer un quota d'émissions carbone aux citoyens. Malgré toutes ces actions pour le moins radicales, nous ne parviendrons pas à atteindre l'objectif de 2 tonnes. La moyenne de l'ensemble des participants est de 4,33 tonnes équivalent CO2. Cependant, grâce à l'impact des mesures collectives, la moyenne mondiale a été abaissée à 2,47 tonnes équivalent CO2. Avec les choix que vous avez faits, vous avez réussi à mobiliser 100% de la population, nous félicite Théo Chevalier. S'il y a plus de gens qui sont sensibilisés et qui veulent passer à l'action, ça va changer plus facilement les politiques et les industries. Réduire, c'est possible. La fin de l'atelier est très marquante pour moi, parce que ça donne l'impression qu'on peut faire une grande différence en éduquant, partage Geneviève Fournier-Goulet, qui songe à inviter l'atelier dans son cégep. Quand on voit l'impact des services publics, ça donne presque envie de faire de la politique, lance Laure Collin, qui déplore que les autorités aient tendance à balayer la nécessité d'agir dans la cour des citoyens. Certains groupes parviennent-ils à atteindre l'objectif? Dans les 2-3 ateliers que j'ai faits ici, non, parce que les services communs ont tellement une part importante, répond Théo Chevalier. En France, il y en a qui y arrivent. Formé en ingénierie, il est l'un des premiers animateurs bénévoles à présenter l'atelier 2 tonnes au Québec un lundi soir sur 2 au tiers-lieu. Déjà animateur pour la fresque du climat, un autre atelier venu de France qui permet de comprendre les phénomènes du changement climatique, il avait envie d'offrir une approche complémentaire plus positive. Le message qu'on veut faire passer, c'est que réduire, c'est possible. Chacun peut prendre sa voie. Certains y arriveront plus tôt, mais l'objectif est le même et c'est tout à fait possible, dit Théo Chevalier, l'un des animateurs de l'atelier 2 tonnes au Québec. Quand tu es aligné sur des valeurs environnementales, tu es souvent vu comme la personne extravagante qui veut juste punir les autres, observe Alexandre Saint-Pierre, un participant. Dans des activités comme celle-là, ce n'est pas ce qui se passe et c'est ça qui est agréable. L'atelier 2 tonnes est offert gratuitement, contribution volontaire suggérée. Il faut s'inscrire sur la plateforme Eventbrite. C'était « Alléger son empreinte carbone aux frontières du réel », un texte de Valérie Simard, paru le 27 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.